L'eau, dit-on, est source de vie. Elle peut également être source de paix si elle est bien gérée. Cela signifie qu'un accès à l'eau fondé sur les principes de non-discrimination et d'égalité peut avoir des retombées positives sur l'ensemble de la société. En revanche, lorsque l'eau est rare ou polluée, ou quand certaines couches de la population n'y ont pas accès ou y ont un accès inégal, des tensions peuvent apparaître au sein des populations et entre les pays qui ont en partage cette eau. L'eau devient dans ce cas source de tensions, voire source de conflits. En choisissant l'eau pour la paix comme thème de l'édition 2024, quels objectifs veulent atteindre les Nations Unies initiatrices de la Journée mondiale de l'eau? Et puisqu'on parle de l'eau pour la paix, dans quelle mesure les États dont les frontières sont délimitées par un cours d'eau, une lagune, un fleuve ou la mer peuvent-ils maintenir la paix entre eux? Face à l'aggravation des effets du changement climatique et à la croissance démographique, apparaît-il urgent pour les pays de s'unir pour protéger et conserver la ressource la plus précieuse, le principal aliment de base qui tend à devenir rare? Comment optimiser également la ressource en vue de l'utilisation de l'eau en zone urbaine comme en zone rurale? La ressource en eau dont dispose la Côte d'Ivoire est-elle suffisante pour favoriser la sécurité alimentaire et le maintien des moyens de subsistance, en particulier chez les populations les plus vulnérables? Ce sont entre autres les questions clés que nous poserons dans une poignée de secondes au directeur général des ressources en eau au ministère des Eaux et Forêts. Bienvenue à tous.
Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Docteur Yeo Eugène, bonjour.
Bonjour Madame Kakou.
Pouvez-vous nous dire un mot sur le potentiel au niveau des ressources en eau en Côte d'Ivoire? En un mot, quel est en l'espèce l'état des lieux?
Alors, quand on parle de ressources en eau en Côte d'Ivoire, il faut comprendre trois composantes. Les ressources en eau en Côte d'Ivoire, c'est 1. Les eaux de pluie. 2. Ce sont les eaux de surface. 3. Ce sont les eaux souterraines. Et 4. Ce sont les eaux de la mer territoriale. Et donc, quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, en termes d'eau de pluie, il tombe en moyenne 1400 mm de pluie par an. Et sur ces 1400 mm de pluie, il y a une partie autour de 70% qui s'évapore. Une autre partie s'infiltre pour alimenter les nappes souterraines. Et puis, une infime partie également s'écoule à travers nos fleuves et rivières. En matière d'eau de surface, la Côte d'Ivoire dispose de 12 bassins versants, c'est-à-dire 12 fleuves et rivières principaux, qui, en termes de quantité évaluée, tournent autour de 9 milliards de mètres cubes.
On peut avoir une idée de ces bassins versants?
On peut commencer par citer d'est en ouest. Nous avons le bassin de la Tanoué, le bassin de la Bia, le bassin de la Komoué, le bassin de la Volta, le bassin du Bandama, le bassin de la Niévi, le bassin du Sassandra, le bassin du Niger, le bassin de San Pedro, le bassin de Boubo, le bassin de Nyon et puis le bassin du Cavali. Ça fait bien les 12 bassins versants que nous avons. Et en termes d'eau de surface également, en plus de ces fleuves et rivières qui coulent, nous avons réalisé en termes de mobilisation des ressources en eau environ 600 barrages. Pour être exact, 578 barrages. Sur ces 578 barrages, nous avons des barrages à vocation hydroélectrique, nous avons des barrages à vocation agricole, nous avons des barrages à vocation pastorale, nous avons des barrages à vocation halieutique, ainsi de suite. Et nous avons des barrages aussi à vocation eau potable, qu'on exploite pour alimenter les populations en eau potable. Tout ce potentiel, en plus des fleuves et rivières et des barrages, constitue donc le potentiel d'eau de surface que connaît la Côte d'Ivoire. Après les pluies et les eaux de surface, nous allons maintenant au niveau des eaux souterraines. Quand on parle d'eau souterraine en Côte d'Ivoire, nous en distinguons deux types. Il y a les eaux qui sont au niveau du bassin sédimentaire, des eaux souterraines en aquifère continu.
Ça veut dire quoi?
Aquifère continu, c'est d'abord c'est un aquifère qui communique. Un aquifère, c'est une poche souterraine où il y a de l'eau. Mais c'est une grande poche qui s'étend sur plusieurs kilomètres, notamment la poche dont je parle. C'est une poche qui part depuis Axin au Ghana jusqu'à Sassandra, c'est-à-dire en passant par Abidjan et autres. Donc l'eau qui est exploitée en eau souterraine pour alimenter les populations en eau potable ici à Abidjan et dans tout le district d'Abidjan, c'est l'eau de la nappe d'Abidjan, c'est une eau qui fait partie donc du bassin sédimentaire. La particularité de ce bassin sédimentaire, c'est que les débits sont très importants. C'est-à-dire on a des débits qui avoisinent les 300-400 mètres cubes heure.
Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour une éventuelle pénurie.
J'en viens, parce que ce bassin sédimentaire, du point de vue superficie, ne représente que 3% de la superficie en Côte d'Ivoire. Les 97% sont en zone de socle, c'est-à-dire en zone d'aquifère discontinue, où les débits sont très faibles. C'est-à-dire, à peine, nous arrivons à avoir des débits de 10 mètres cubes heure. Pour dire que les eaux souterraines qui sont traditionnellement exploitées pour alimenter les populations en eau potable, à part le bassin sédimentaire, c'est-à-dire Abidjan, Abouasso et autres, tout le reste du pays, l'alimentation des populations à partir des eaux de surface est un grand défi, est un grand challenge. C'est pourquoi toutes les villes de l'intérieur du pays sont alimentées à partir d'eau de surface, soit à partir des barrages que nous avons réalisés, ou bien soit à partir des prélèvements en rivières et fleuves. Et nous arrivons maintenant pour le quatrième groupe de ressources en eau, pour parler des eaux de la mer territoriale. Il y a eu une convention à Montego qui situe un peu pour tous les pays qui ont une façade maritime, une certaine distance, je crois autour de 20 km, qui délimite donc ces eaux-là comme étant le prolongement de l'État. C'est-à-dire que c'est des eaux qui appartiennent au territoire en question et qui sont dénommées eaux de la mer territoriale. En 2024, où nous parlons, c'est un état des lieux qui est alarmant parce que le pays, à l'image de tous les pays du monde, fait face aux effets du changement climatique. Qui parle d'effets du changement climatique parle de recrudescence de sécheresse, mais parle également d'événements extrêmes. Événements extrêmes en termes d'inondations et autres. Vous aviez entendu parler du phénomène El Niño. C'est un phénomène qui naît aux côtes du Pérou, mais c'est un phénomène, quand il est enregistré, il est fortement ressenti au niveau de la Côte d'Ivoire. Comment ? Il est ressenti avec des vagues de chaleur. Il fait excessivement chaud et il est également ressenti en termes de sécheresse prononcée au nord et au centre du pays. Mais dans la partie sud, ce phénomène se caractérise par de fortes pluies entraînant des inondations. Et donc, la Côte d'Ivoire a eu récemment des expériences avec des phénomènes de délestage que nous avons connus dans les années 2020-2021, mais qui étaient dus à un phénomène d'El Niño qu'on avait expérimenté et qui avait entraîné que nos barrages hydroélectriques n'arrivaient plus à jouer leur rôle donc en matière de production optimum d'énergie. Nous avions également un autre phénomène qui avait été observé, le phénomène El Niño en 2017, et qui avait entraîné l'assèchement de la plupart de nos retenues au nord et au centre du pays. Et vous avez souvenance du barrage de la Loka à Boaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, où ce barrage s'était subitement asséché et donc avait entraîné des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Donc l'état de ces ressources aujourd'hui, c'est de plus en plus une rareté en matière de disponibilité de la ressource en eau. Mais c'est également un autre choc que je vais mentionner, c'est celui de la pollution des ressources en eau. Pollution liée aux activités industrielles, à travers les huileries qui sont installées, à travers également d'autres industries qui mènent leurs activités en ne respectant pas l'environnement. Mais je vais parler également de pollution liée à l'activité agricole. Parce que nous utilisons des pesticides, nous utilisons beaucoup de produits pour pouvoir améliorer donc la production agricole. Et malheureusement, ces pesticides, une fois ruisselés et qui gagnent nos eaux de surface, entraînent souvent de l'eutrophisation, entraînent souvent la prolifération de végétaux aquatiques envahissants, mais entraînent en gros des phénomènes de pollution que nous observons sur nos plans d'eau. Un autre phénomène, pas des moindres, parce qu'il sonne très rouge, alors que ce n'était pas un phénomène observé il y a 20 ans, c'est celui de l'exploitation minière illégale que nous appelons l'orpaillage. Et ça, le problème est tellement sérieux, est tellement préoccupant, que l'État de Côte d'Ivoire a pris les rênes, a pris les choses en main pour mettre en place un groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal que nous appelons le GSLOI, pour mettre fin à toute activité liée à l'orpaillage.
En dehors de l'orpaillage clandestin dont vous parliez tantôt, pour ce qui concerne les autres défis, a-t-on pensé à mettre sur pied un programme d'action, un mécanisme de coordination en collaboration avec d'autres partenaires ?
Oui, en parlant du GS Loi, c'est l'une des initiatives prises par l'État de Côte d'Ivoire pour faire face donc à la pollution. Sinon, il en existe plusieurs initiatives qui ont été prises. Il y a, si on considère le cadre législatif et réglementaire, parce que avant de s'attaquer à ces nouveaux chocs, il faut d'abord actualiser nos lois. Donc, en matière de cadre juridique et réglementaire, l'État a entrepris de réviser tous ces codes. Et le code de l'eau a été révisé et donc promulgué récemment, le 23 novembre 2023. L'État a également promulgué un nouveau code de l'environnement. Et le code minier, il est en cours de révision pour prendre en compte ces nouveaux défis que nous observons, c'est-à-dire les changements climatiques, mais aussi la pollution liée à l'orpaillage clandestin. Donc ça, c'est l'une des initiatives au niveau du cadre juridique et réglementaire. Mais en termes de projets, il y a des nouveaux projets et programmes qui sont initiés. Je vais parler par exemple du projet d'appui à la sécurité de l'eau et de l'assainissement, qu'on appelle le PASEA, qui est en train d'être négocié avec l'appui de la Banque mondiale, qui va démarrer cette année, en 2024, mais qui consiste à sécuriser l'eau pour tous les usages. Alors, quand nous le disons, nous allons vous lister un peu les usages que nous faisons avec l'eau. Un, il y a l'agriculture. Deux, il y a les services halieutiques. Trois, nous avons le secteur domestique, c'est-à-dire l'eau potable à travers l'hydraulique. Nous avons, on va dire, les ressources animales à travers l'élevage et autres. Mais nous avons beaucoup d'autres secteurs comme les mines, comme l'hydroélectricité, comme le tourisme. Et donc, aujourd'hui, on ne peut aborder la question de l'eau sans aborder ce qui touche à l'économie même du pays. Parce que toutes les activités du pays sont basées sur les ressources en eau. Soit en utilisant la force motrice de l'eau, soit en utilisant donc l'eau en termes de ressources, en termes de quantité ou en termes de qualité. Donc aujourd'hui, plusieurs initiatives donc sont prises et ce projet important, je l'ai noté, c'était pour dire que notre ministère, le ministère des eaux et forêts, ensemble avec le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, sont les deux ministères donc qui pilotent cet important programme qui va se dérouler de 2024 à 2035 et qui va consister à sécuriser l'eau en quantité et en qualité pour tous les usages que nous avons.
Docteur Yeo Eugène, en termes de demande en eau en Côte d'Ivoire, quels sont les secteurs qui consomment le plus d'eau?
C'est d'abord un, le secteur agricole, avec des besoins en eau estimés à l'horizon 2030 autour de 8 milliards de mètres cubes. Cette demande est suivie par le secteur halieutique, avec des besoins estimés encore à l'horizon 2030 autour de 2 milliards de mètres cubes.
Donc avec ces chiffres que vous donnez, est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore de l'eau disponible pour la population?
Oui, il est important de noter qu'en Côte d'Ivoire, dans un passé récent, nous n'étions pas plus de 30 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 30 millions d'habitants. Et quand on regarde 20 ans avant, peut-être on devait être autour de 12 ou bien alors... Juste pour dire qu'en 20 ans, la population a quasiment doublé. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que il y a 20 ans, nous ne parlions pas d'orpaillage en Côte d'Ivoire. Il y a 20 ans, on ne parlait pas avec autant d'intensité de changement climatique. Pour dire que la population est en train d'augmenter. Les ressources en eau sont en train de diminuer en termes de quantité due au changement climatique, mais la qualité également est en train d'être entamée à cause de nos activités. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne devait pas connaître des problèmes de stress hydrique parce que Dieu nous a bénis avec ces 12 bassins versants, avec toute cette quantité de pluie que nous avons. Mais si nous n'adoptons pas une gestion durable, si nous n'adoptons pas une gestion intégrée des ressources en eau, il va sans dire qu'on ne pourra plus disposer d'eau en quantité et en qualité pour nos différents usages.
Quels sont selon vous les gestes à adopter?
À la faveur donc de la célébration de l'édition 2024 de la Journée mondiale de l'eau, Monsieur le ministre des Eaux et Forêts a décidé d'organiser un atelier de sensibilisation et de diffusion de la loi 2023-902 du 23 novembre 2023, qui est le nouveau code que le président de la République a promulgué récemment. Et donc, quel comportement adopter? Un, c'est d'abord de s'approprier le nouveau code de l'eau qui aborde toutes ces questions, les questions liées au changement climatique, les questions liées à la pollution des ressources en eau, mais surtout le concept de gestion intégrée des ressources en eau, sans lequel nous ne pouvons gérer l'eau de façon durable. Et cette mise en œuvre effective de cette nouvelle loi relative donc au code de l'eau. En 2011, le président de la République, son Excellence Hassan Ouattara, avait initié le concept d'Ivoirien nouveau. Pour nous, dans le secteur des ressources en eau, dans le secteur de l'eau, nous voyons ce citoyen nouveau donc mener ses activités de façon respectueuse de l'environnement. Que je sois minier, agriculteur, que je sois exploitant pour l'eau potable ou alors producteur de ressources halieutiques, il faut que mon activité soit respectueuse de l'environnement. Et un autre aspect important qui est abordé dans cette nouvelle loi, c'est la réutilisation des eaux usées, mais c'est aussi la valorisation des eaux de pluie. Vous voyez qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a tous ses fleuves qui coulent pour se jeter dans la mer. Il y a des pays comme le Maroc qui ont décidé un jour de décréter plus aucune goutte d'eau à la mer. Ils ont réalisé des ouvrages de mobilisation de l'eau pour retenir l'eau qui devait se couler à la mer, de sorte à en disposer pour les différents usages.
Est-ce qu'on peut les appliquer en Côte d'Ivoire?
Aujourd'hui, Monsieur le ministre des Eaux et Forêts a lancé un slogan qui n'est pas celui de dire plus aucune goutte d'eau à la mer, mais il a plutôt dit plus aucune goutte d'eau polluée par l'orpaillage, par l'exploitation minière illégale. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que la Côte d'Ivoire a réalisé environ 600 barrages. C'est d'abord des ouvrages de mobilisation des ressources en eau. Nous en avons besoin encore, mais il faut laisser une partie de l'eau se couler à la mer. Mais bien sûr, il faut songer à maintenir une certaine quantité sur le continent, de sorte à en disposer pendant les périodes de stress. Je le dis parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une inégale répartition de la ressource, temporelle, mais aussi géographique. Quand nous sommes au nord, nous avons moins d'eau que lorsque nous sommes au sud. Temporelle, parce qu'en période d'étiage entre décembre et mars, nous avons nos fleuves que nous pouvons traverser même à pied, en escaladant les différentes roches. Mais ces mêmes fleuves, dans les mois de juillet, août, septembre, c'est des fleuves qui sont en crue, qui sortent souvent de leur lit pour causer des inondations. Alors, pourquoi laisser toute cette eau qui est en crue en septembre s'écouler en mer et en décembre traverser ces cours d'eau et commencer à faire des délestages dans les localités où nous approvisionnons nos populations à partir des eaux de surface. Pour dire qu'il y a un travail de mobilisation de ces ressources qu'il faut faire, de sécurisation de l'eau pour les différents usages qu'il va falloir réaliser. C'est des projets structurants, c'est-à-dire c'est des projets qui ne vont pas concerner uniquement un seul usage. Ça peut concerner en même temps l'eau potable, ça peut concerner en même temps la production halieutique, ça peut concerner l'irrigation et autres.
Docteur Yéo Eugène, le thème de la Journée mondiale de l'eau 2024 porte sur l'eau pour la paix. Pourquoi le choix de cette thématique? Que renferme-t-elle, cette thématique?
Alors, il faut dire que la Journée mondiale de l'eau a été instituée par les Nations Unies depuis 1993 et cette célébration se fait chaque année avec une thématique particulière. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés au point où tous les pays expérimentent la pénurie d'eau. Nous en sommes arrivés au point où tous les pays expérimentent la pollution des ressources en eau. Et donc, les Nations Unies anticipent pour que les pays, pour que les populations optent pour une coopération autour de ces ressources en eau. Quand on parle de ressources en eau, on parle de bassins versants. Aujourd'hui, nous avons 12 bassins versants et il y en a 8 que nous partageons avec les pays voisins.
Comment est-ce que vous partagez ces bassins avec les pays voisins?
Sur les 8 bassins versants, la Côte d'Ivoire a opté, comme principe de gestion intégrée des ressources en eau, d'asseoir des organismes qui permettent une coopération sur ces territoires-là que nous appelons les bassins versants.
Lesquels?
Nous avons l'autorité du bassin du Niger, qui comprend 9 pays, dont la Côte d'Ivoire. Nous avons l'autorité du bassin de la Volta, qui comprend 6 pays, dont la Côte d'Ivoire. Et nous avons une autorité qui est en cours de mise en place sur la Komoé-Biatanoé, avec 4 pays, le Ghana, le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Mais nous appartenons aussi à plusieurs initiatives. Il y a l'Union du fleuve Mano, où nous participons à la coopération sur les 10 bassins qui regroupent donc cette zone ouest de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, Guinée, Libéria, Sierra Leone, à travers donc la coopération autour des ressources naturelles. Et donc aujourd'hui, qui parle de paix, parle de prospérité. Et l'eau, compte tenu de son importance vitale pour l'existence humaine il va falloir promouvoir, sensibiliser les États et les populations à asseoir donc des accords de coopération sur ces différents plans d'eau que nous partageons.
Alors, ces différents plans d'eau que la Côte d'Ivoire partage avec les pays voisins, ces différents plans d'eau peuvent être source de conflits. Avez-vous des exemples à nous donner? Est-il déjà arrivé que la Côte d'Ivoire soit en conflit avec un État voisin?
Je vais parler jusqu'à dire conflit, mais il y a des tensions, il y a des sources de tensions autour de certains fleuves que nous partageons. Donc, quand j'ai parlé de l'autorité du bassin de la Volta, alors il y a la construction souvent de grands barrages dans certains pays qui nécessitent que les autres pays membres donc soient notifié ou bien soit saisi, mais quand ce n'est pas le cas, il arrive qu'il y ait pas des conflits ouverts, mais il arrive qu'il y ait des tensions, mais toutes ces situations ont toujours été réglées par les accords de coopération, surtout les organismes de bassin que nous nous sommes donnés. Donc, je vais citer plusieurs exemples pour dire que le programme d'appui à la sécurité de l'eau et de l'assainissement que nous sommes en train de monter avec la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a entrepris de réhabiliter un certain nombre d'ouvrages, un certain nombre de barrages. Et donc, pour le faire, la bonne mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau imprime qu'il faut notifier aux autres pays membres du bassin notre volonté de mener donc ces travaux-là. Et ces différents États doivent répondre pour dire qu'ils donnent leur avis de non-objection pour pouvoir réaliser ces travaux. Et dans le cadre de ce projet, il y a eu, pour le cadre du bassin de Sassandra, des correspondances qui sont parties via le ministère des Affaires étrangères vers la Guinée, vers le Mali et puis vers le Libéria, qui ont effectivement donné donc ces avis de non-objection. Pour la Comoué également, la Côte d'Ivoire s'est adressée aux différents pays qui sont le Burkina et le Mali également. Donc je ne dirais pas que la Côte d'Ivoire a déjà expérimenté de façon ouverte des cas de conflit, mais il y a des tensions, il y a nécessité donc de coopérer. Vous voyez qu'en mars 2023, monsieur le ministre des Eaux et Forêts, quand il y a eu la pollution au niveau de la Bia et de la Tanoué, qui avait entraîné donc l'interruption de la desserte en eau potable, monsieur le ministre des Eaux et Forêts, après avoir fait une visite lui-même sur les sites de Tanoué et de Bia, s'est rendu au Ghana où il a rencontré donc son homologue ghanéenne et où le même phénomène de pollution liée à l'orpaillage était aussi connu au niveau de la partie ghanéenne. Mais il faut dire que le Ghana est en amont, nous sommes en aval. Il n'y a pas que eux qui pratiquent l'orpaillage, nous aussi, nous pratiquons. Mais le ressenti en Côte d'Ivoire était beaucoup plus élevé qu'au niveau du Ghana. Donc pour dire qu'il y a la collaboration, la coopération bilatérale, mais il y a aussi la coopération multilatérale entre les différents États pour s'assurer que la paix réside donc dans cet espace que nous partageons naturellement avec nos voisins.
Docteur Yeo Eugène, pour parler toujours de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, elle a été précédée de la Journée internationale des forêts, dont le rôle est entre autres de conserver la biodiversité. Ces deux éléments, forêt et eau, sont-ils étroitement liés selon vous?
Moi, je suis aux eaux et forêts, le ministre qui gère ce département. J'ai en même temps les forêts et l'eau. Donc, pour répondre à votre question, je dis oui que les deux secteurs sont fortement liés. La Journée internationale des forêts, c'est le 21 mars de chaque année. La Journée mondiale de l'eau, c'est le 22 mars de chaque année. C'est une institution des Nations Unies. Et pour nous qui nous rappelons un peu encore du cycle de l'eau, c'est une boucle. Quand il y a une pluie, il y a une infiltration, ensuite il y a évaporation, il y a les arbres aussi qui contribuent avec la photosynthèse et autres. Donc c'est forcément lié. On ne peut pas parler de zones humides sans parler de forêts. On ne peut pas parler de zones humides sans parler de ressources en eau. Et donc, naturellement, ces deux secteurs sont liés. Et c'est des ressources vitales. Aujourd'hui, on parle de crédit carbone, on parle de séquestration du carbone, on parle d'atténuation des effets du changement climatique. Et tout ça, c'est autour de la forêt. Et tous les usages, la forêt aussi ne peut pas prospérer sans eau. Donc, c'est des ressources naturelles qui sont liées. Et c'est un honneur pour nous donc, de pouvoir être des ouvriers, des serviteurs donc, de ces différents secteurs.
Des ressources naturelles qui sont liées, vous venez de le dire. Peut-on établir également un lien entre l'eau et l'emploi, disons le travail, quand l'on sait que dans le pays, la plupart de la main-d'œuvre a un emploi qui dépend de l'eau? C'est par exemple le cas de certains secteurs.
Oui, quand j'ai cité par exemple les besoins en demande en eau à l'horizon 2030, vous voyez que c'est des secteurs donc, qui sont pourvoyeur d'emploi. Quand nous prenons le secteur agricole, nous prenons le secteur halieutique, le secteur industriel, le secteur domestique, en matière d'eau potable, c'est un secteur qui emploie énormément de personnes. Donc aujourd'hui, effectivement, si nous ne garantissons pas une ressource en eau en quantité et en qualité pour tous ces usages, il va sans dire que le secteur de l'emploi va en pâtir.
Docteur Yo Eugène, l'eau pour la paix peut-elle représenter un grand enjeu pour les années à venir?
Bien sûr. Monsieur le ministre le disait dans l'une de ses prises de parole, il disait que si on n'y prête pas attention, les prochaines guerres seront donc autour de l'eau, autour des points d'eau. Nous arrivons du Salon international de l'agriculture de Paris, où monsieur le ministre, à la faveur donc de la coopération qu'il a avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, visitait donc cette institution. Et nous nous sommes rendus compte que la France, qui à travers donc cet important bassin n'avait pas des besoins, je veux dire en quantité liés aux ressources en eau, aujourd'hui commence à connaître le stress hydrique parce que les glaciers, la neige qui fondait et qui alimentait les eaux de surface, aujourd'hui ces glaciers ont quasiment disparu et il pleut de moins en moins, il fait de plus en plus chaud. Et donc, aujourd'hui, il est opportun, sinon important, de regarder la ressource en eau comme étant l'élément qu'il faut préserver pour les générations futures, pour leur garantir donc une paix et une prospérité durable.
Un enjeu géopolitique selon vous?
Oui, géopolitique parce que nous avons une inégale répartition. Selon qu'on se déplace d'une zone A à une zone B, donc naturellement, il y a des questions de géopolitique qu'il va falloir donc adresser.
En conclusion, que retenir?
En conclusion, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, plus aucune goutte d'eau polluée donc par l'orpaillage et pour demander à chacun des Ivoiriens de s'approprier cette nouvelle loi portant code de l'eau qui est un gage donc de la mise en œuvre efficace et efficiente de la gestion intégrée des ressources en eau, ressources importantes pour tous les usages que nous avons en Côte d'Ivoire.
Docteur Hayo Eugène, je vous remercie.
Merci beaucoup.
À la technique, il y a Antoine Kouassi, Marthe Kakou à ce micro. Merci de votre attention et à bientôt.
C'était l'entrevue
Radio de la Paix.